Cet épisode de podcast a été réalisé dans le cadre du Forum des ruralités engagées pour échanger avec les nouveaux acteurs du développement local et découvrir les initiatives solidaires et ingénieuses qui germent dans les territoires ruraux. Cet événement a été organisé par Village Vivant en partenariat avec l'AVIS, Agence d'ingénierie pour entreprendre autrement, et le RTES, Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Malheureusement, le forum n'ayant pas pu se tenir en présentiel en raison de la crise sanitaire, la majorité des ateliers ont été dématérialisés en visioconférence. Les témoignages prévus initialement, quant à eux, ont été enregistrés par La Traverse. Nous vous les livrons aujourd'hui au travers de ce podcast. Nous y tendons le micro à des porteurs de projets locaux qui œuvrent à faire vivre les territoires ruraux. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous rencontrons Alban Pérennes, membre de la SMALA, une association citoyenne de développement économique et culturel à Saint-Julien-en-Born dans les Landes. Avec lui, nous avons parlé du foisonnement d'activités proposées par la SMALA, des modes alternatifs d'action, de financement, d'organisation, de l'impact de la crise sanitaire et de l'engagement comme moyen d'explorer et de construire d'autres voies de développement. Bonjour Alban Pérennes, nous sommes à Morsan dans un café du centre-ville et nous sommes ici pour parler de la SMALA, une initiative à laquelle tu contribues activement et que tu vas pouvoir nous présenter ici. Donc est-ce que avant toute chose tu peux nous parler de toi et de ton parcours personnel avant d'arriver sur cette initiative?
Oui, ça marche. Bonjour Maxime. Donc en effet, on est à Morsinx et je m'appelle Alban Pérennes. Je travaille dans une association qui s'appelle la SMALA. Et comment je suis arrivé là? Alors moi, je suis pas landais, je suis dans les Landes depuis 3 ans. J'ai un parcours plutôt citadin, je suis né à Bordeaux, j'ai grandi à Paris et avant de venir dans les Landes, j'ai passé 4 ans à Bruxelles. J'ai fait mes études et j'ai travaillé à Nantes aussi, donc vraiment plutôt l'habitude de grosses villes. J'ai une formation école de commerce de Nantes, donc formé à la gestion de projet, gestion de structure, avec deux spécialités. Une dans l'entrepreneuriat, comment entreprendre, comment créer une activité en partant de zéro, et l'autre dans les institutions culturelles et les industries multimédia. J'ai travaillé dans ce domaine-là à la sortie de l'école en commençant par créer une petite coopérative de conseil avec un copain. On intervenait principalement sur le thème du bilan carbone et des prestations associées, tout ce qui peut être réduction d'émissions et plan d'action pour réduire ces émissions. Ensuite, j'ai travaillé aussi dans des grosses boîtes, plutôt grands comptes, dans des entreprises de conseil. Ma dernière expérience était chez Accenture par exemple, donc c'est vraiment la grosse entreprise de conseil, 400 000 personnes dans 90 pays dans le monde. Et en 2017 j'étais à Bruxelles, chez Accenture donc, et j'ai eu un petit déclic, petite envie de changement. J'ai fait un peu le point sur ma vie, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, qu'est-ce qu'il y a trop dans ma vie et que je veux moins, qu'est-ce qu'il n'y a pas assez dans ma vie et que je voudrais plus. Je me suis posé des questions basiques comme ça et j'ai décidé de quitter du coup la ville et de quitter aussi le privé pur pour mon activité professionnelle. Donc j'ai cherché à me rapprocher de l'océan principalement, plutôt sud de la France, je visais entre Bordeaux et Bayonne. Et j'ai cherché aussi des opportunités de boulot côté public ou parapublic. C'est comme ça que j'ai rencontré la SMALA.
Et donc tu as quitté la ville pour aller t'installer à la campagne, est-ce que tu es d'accord avec cette description?
Ouais.
Et donc sur notamment la commune de Saint-Julien-en-Born. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce territoire sur lequel aujourd'hui tu vis, tu habites?
Ouais, alors moi la première chose que j'ai vue qui m'a attiré sur ce territoire, c'est l'océan. Donc on est vraiment au bord de la côte, on est un peu en dessous de Mimizan. Et Saint-Julien-en-Born, c'est la commune de Contis Plage, qui est la station balnéaire connue autour de chez nous. Donc c'est ça principalement qui m'a attiré et qui m'a marqué dans le paysage landais. Je connaissais pas vraiment les Landes, j'y étais passé une ou deux fois en vacances, je savais qu'il y avait l'océan et des vagues. Quand on est à l'océan et qu'on se retourne, ce qu'on voit principalement, c'est de la forêt de pins, donc de la forêt travaillée, c'est pas de la forêt naturelle, c'est plus proche du champ de pins que de la vraie forêt sauvage. Et quand on regarde un petit peu entre les pins, on s'aperçoit qu'il y a plein de richesses et de petits coins à découvrir dans les Landes. L'image classique qu'on en a, c'est des lignes droites avec des forêts de pins tout aussi droites. Et en fait, dès qu'on sort des lignes droites, et ben, y a plein de petites dunes, de petits coins de forêt, de petits ruisseaux, de petites choses à découvrir. Et d'un point de vue habitation, village, c'est des petits villages d'environ 1000 personnes, 800, 1200 personnes. Qui sont à peu près tous espacés de, 1000 ki- de 10 km, pas 1000 km. Parfois, on a l'impression qu'il y a 1000 km. Mais voilà, donc c'est faiblement peuplé, pas très dense. On se connaît pas tous, mais on se connaît bien quand même. Donc c'est vraiment par rapport à un citadin.
Pas très dense, sauf du coup pendant la période estivale.
Sauf pendant la période estivale, voilà, on attire beaucoup de touristes, le coin attire beaucoup de touristes, donc on passe de 1000 à 15 000 personnes par village l'été. Ouais.
Et donc dans ce contexte, vous avez créé la Smala. Est-ce que tu peux maintenant me présenter un petit peu le projet associatif de la Smala ?
Ouais, alors moi j'étais pas là pour la création de la Smala, c'est une association qui a été créée en 2013. Par des gens qui avaient plus ou moins le même parcours que moi. Tout le monde n'avait pas fait d'école de commerce, il y avait différentes formations, il y avait des journalistes, des communicants, des historiens, des designers, mais globalement des gens qui n'avaient pas grandi dans les Landes, qui décidaient néanmoins de s'installer sur le territoire et d'y vivre, parce que le territoire est très attractif et que tous ces gens avaient vraiment envie d'y passer un bout de vie, voire de s'y projeter vraiment à très long terme. Et l'idée, c'était de se constituer en collectif, en fait, pour pouvoir développer des initiatives en tout genre. Donc les discussions, vraiment, les premières discussions sur la création de la Smala, c'est des discussions d'hiver, quand il n'y a pas 15 000 personnes, mais plutôt 1000. En ressenti 50 parfois, parce qu'on peut ne pas voir grand monde pendant l'hiver. Et donc ça part vraiment de discussions entre copains au coin du feu, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'amuser sur le territoire. Qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et en face de ça, quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on peut mobiliser, mutualiser et mettre en œuvre pour arriver à ces objectifs-là. À l'époque, il y avait plusieurs idées principales qui ressortaient, et la première, c'était à Saint-Julien-en-Born de réouvrir un café l'hiver, parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de café ouvert l'hiver sur la commune. Il y a évidemment tous les bars et les restaurants l'été, au moment touristique, mais l'hiver, il n'y avait plus rien. Et donc, une des premières idées qui a émergé, c'était l'idée de réouvrir un café pour les gens qui restent là l'hiver.
Et au fur et à mesure, ça s'est étendu. Aujourd'hui, vous avez plusieurs secteurs d'activité. Vous travaillez autour du sujet culturel, du sujet alimentaire et du sujet création d'activité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces sujets aujourd'hui qui vous animent ?
Oui, tout à fait. Alors déjà, pour ce que je voudrais préciser, c'est que depuis le démarrage, le collectif, en fait, il se pense un peu comme une boîte à outils au service du territoire. Et la création de la structure juridique, la structure associative, la SMALA, en fait, c'était fait pour donner un outil juridique pour porter des idées, des embryons d'activité. Donc historiquement, il y a plusieurs domaines d'activité, pas forcément reliés les uns aux autres a priori. L'idée de monter un café associatif, l'idée de monter un club de sport, l'idée d'activité autour du bien-être. Et en fait, le point commun en tout ça, entre toutes ces activités, c'est l'idée de mutualiser les compétences et les outils. Et aujourd'hui, je fais cette précision-là parce que la Smala, vu de l'extérieur, mène plein d'activités différentes. Ça paraît un peu foisonnant. On s'est beaucoup diversifié par rapport à nos premières actions. Pour simplifier les choses et pour s'organiser, on essaie de les regrouper autour de trois axes principaux que je vais développer dans un instant. Et il faut comprendre que le foisonnement, en fait, ça vient du foisonnement du collectif. Les différentes activités qui sont menées par la Smala correspondent aux différentes envies, aux différents besoins, aux différentes compétences des gens qui constituent le collectif. parce que la Smala, c'est avant tout un collectif. Donc c'est des gens qui vivent là et qui ont envie de faire des choses ensemble.
Vous êtes combien aujourd'hui, tu sais dire à peu près combien vous êtes dans le collectif?
Ouais, alors cette année, on a un tout petit nombre d'adhérents par rapport aux autres années, dû au Covid, au confinement, à la fermeture du café associatif et au ralentissement de toutes les activités. Donc aujourd'hui, on a fait le compte, on est à peine à 250 adhérents, ce qui est moitié moins que l'an dernier, par exemple. On a un noyau dur d'une trentaine, quarantaine de personnes qui s'activent sur nos différents lieux et une équipe de 8 salariés. Un conseil d'administration de 10 personnes. Du coup, les trois axes qui permettent de regrouper pas mal d'activités différentes sont un axe socio-culturel, un axe autour de l'alimentation, et un axe autour du travail, très largement, qui se concentre principalement sur de l'accompagnement à l'activité et de la formation et de l'insertion. Donc, le premier axe, les activités socio-culturelles, c'est un peu tout ce qui se passe au café associatif. Donc, une programmation artistique, une programmation de concerts, expositions, débats, conférences, soirées en tout genre. Il y a un programme d'ateliers aussi, bénévole et gratuit. Il y a plusieurs ateliers par semaine. Il y a des ateliers couture, guitare, cuisine, tricot, écriture, lecture. Des soirées jeux, il y a des permanences numériques. Donc, toute cette activité autour du café. Alors, la partie alimentation, du coup, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu les PAT, les projets alimentaires de territoire. Ça correspond à un label qu'on n'a pas, donc on appelle plutôt ça une DAT, une démarche alimentaire de territoire, on n'utilise pas le mot projet. Mais en gros, c'est l'idée de coordonner et d'animer un certain nombre d'actions qui vont en faveur des circuits courts de proximité et de l'agriculture locale et saine. Donc on se fait un peu sur ce sujet-là le porte-voix d'un collectif d'acteurs terrain qui est constitué de producteurs, de restaurateurs, de transformateurs, de collectivités, des mangeurs aussi, les gens qui produisent pas et qui transforment pas mais qui achètent et mangent les productions locales. Et l'idée, c'est de déployer un plan d'action assez large qui va vraiment du soutien de la production jusqu'à l'assiette, comme on dit, du champ à l'assiette, en passant par des programmes de sensibilisation pour les enfants, leurs parents, l'accompagnement des cantines scolaires dans l'approvisionnement local, la création d'un outil de transformation alimentaire, un petit laboratoire de transformation sous forme coopérative. Donc tout un éventail d'actions, en fait, qui a pour but de développer la résilience alimentaire du territoire, comme on dit. Et nous, tel qu'on le voit, c'est aussi un enjeu de réappropriation citoyenne de la question alimentaire, c'est-à-dire être capable de choisir ce qu'on mange, où c'est produit, comment c'est produit. Et le troisième axe, donc l'axe qu'on développe beaucoup en ce moment, formation, insertion, c'est un projet de campus rural, en fait, qu'on appelle Territoire commun, qui est principalement destiné à des jeunes entre 18 et 29 ans qui ont plutôt un parcours compliqué, qui sont plutôt en train de décrocher, des gens qui sont en situation ni de travail ni de formation et qui sont pas vraiment dans des circuits qui pourraient les aider à reprendre pied ou à formuler un projet. Donc on a un petit programme en trois phases. Une phase de repérage, comment rencontrer ces gens, comment leur parler de nos actions et leur proposer des choses. Une phase de remobilisation qu'on appelle bivouac, donc c'est un petit stage de 21 jours. Et une phase un peu plus longue de formation qu'on appelle passerelle et qui dure 7 mois sous une forme un peu alternance.
D'accord, donc c'est des activités vraiment très riches que tu décris là, avec des thématiques variées. Tu parles de retour à l'activité, d'alimentation. Donc tout ça relève d'une sorte d'engagement pour la transition à la fois écologique et sociale. Comment vous gérez cette pluralité d'actions et comment concrètement ça s'organise au quotidien, une telle entreprise, si tu me permets le terme entreprise, pour allier tous ces enjeux ensemble en même temps?
Mais je permets totalement le terme entreprise dans le sens faire ensemble. On est sous forme associative et c'est très important pour nous parce que ça implique plein de choses. Mais on peut parler d'entreprise dans le sens où vraiment on essaye d'avoir des actions concrètes et un impact sur le territoire. comme je le disais un petit peu, et peut-être qu'il faut beaucoup l'expliquer et le repréciser, le point commun entre toutes ces actions très différentes, c'est les besoins du territoire. Nous, on base toutes nos actions sur l'ancrage territorial, c'est-à-dire que si elles ne répondent pas à un besoin concret des gens avec qui on vit et pour qui on les fait, bah, c'est des actions qui ne tiennent pas. Ça ne sert à rien d'aller chercher du financement public sur des actions que personne ne veut. Et je pense que c'est la spécificité des projets comme la SMALA, parce qu'il y en a d'autres ailleurs, des projets de ce type, c'est de s'attacher à l'ancrage local, parce que c'est ce qui garantit la légitimité des projets et leur utilité sur un territoire donné. Donc toutes nos actions sont un peu initiées par ça, par des diagnostics territoriaux, par de la concertation citoyenne, que ce soit des diagnostics très méthodologiques, très quantitatifs, avec des questionnaires et vraiment des enquêtes terrain, ou des réunions d'information et de concertation un peu moins quantitatives, un peu plus qualitatives. On s'appuie pour ça sur des partenaires et un travail qu'on fait avec les collectivités notamment et d'autres types d'institutions. Sur la partie formation, territoire commun, on est en lien, on a pour partenaire le Pôle emploi, la mission locale, on est soutenu par la Direct, par l'Agence nationale de la cohésion territoriale. Sur la partie alimentation, on travaille en lien très fort avec les collectivités, nos mairies localement, mais aussi le pays, Landes Nature Côte d'Argent, qui est un échelon administratif qui regroupe plusieurs communautés de communes, qui a lui-même établi un diagnostic par ailleurs. On est financé par la DRAF, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, si je ne me trompe pas dans le terme. Donc voilà, on dégaine pas des actions à l'aveugle juste parce qu'elles nous font plaisir. L'idée, c'est de rester au plus proche des besoins du territoire, toujours.
Et donc vous êtes une ressource énorme pour le territoire. Est-ce que, là tu parlais du soutien de certaines collectivités, est-ce qu'elles sont toutes... À vous aider ? Est-ce qu'il y a des réticences politiques à ce genre de projet ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à ce sujet-là ?
Non, pas vraiment. Je dois dire qu'on est très soutenu par les communes, communautés de communes, départements, régions depuis le début. On a des financements de tous ces partenaires et de tous ces niveaux de collectivités que je viens de citer. On est une association reconnue d'intérêt général et une difficulté, je pense, pour une mairie, pour une collectivité, c'est justement cette notion d'intérêt général. Nous soutenir, oui, parce qu'on a une action qui rayonne sur un large public, on est ouvert à tous les publics, on ne peut pas du tout dire qu'on touche tout le monde, tous les habitants de la commune, mais en tout cas, nos actions sont destinées à tous et ouvertes à tous. On reste néanmoins un collectif qui n'est pas forcément représentatif de l'intégralité de la population. Donc la reconnaissance d'intérêt général, elle est très belle, elle est super. Qu'est-ce qu'elle veut dire dans les faits ? Ça, c'est un peu plus discutable. La différence entre l'intérêt collectif, l'intérêt individuel, l'intérêt général, ça fait partie des questions qu'on se pose régulièrement. Mais ça n'empêche pas les mairies de nous soutenir financièrement, mais surtout aussi non financièrement. Je ne sais pas comment. Les mairies jouent le rôle de facilitateur. On a un mode d'action, un mode de financement et un mode d'organisation qui n'est pas forcément courant sur le territoire. C'est un territoire, je pense, qui est plutôt habitué aux entreprises individuelles classiques, lucratives. Et le mode de fonctionnement associatif avec des financements privés n'est pas forcément très habituel. Et c'est important d'avoir le soutien de la mairie aussi pour montrer les résultats concrets de nos actions, malgré nos modes d'action un peu différents de d'habitude.
Est-ce que sur cette base-là, tu pourrais nous décrire une semaine type pour toi en tant que salarié de la SMALA ?
Ok. Alors une semaine type pour moi, il faut d'abord que je précise que je suis mutualisé entre deux associations. Je travaille à la fois pour la SMALA et à la fois pour le Grenier de Mézos, qui est un bric-à-brac associatif qui est situé dans le village d'à côté, à Mézos, donc à 10 km de Saint-Julien-en-Born. Donc j'essaie de partager mon temps entre les deux associations. Une semaine typique pour moi, ça commence le lundi matin par une matinée d'équipe. On se réunit tous au même endroit une fois par semaine. C'est quelque chose d'important pour nous parce que les activités de l'association se dispatchent dans trois lieux et aussi en dehors de ces trois lieux, les trois lieux dans lesquels on sévit et qu'on participe à animer. Et donc, on est 8 salariés qui travaillent tous un petit peu sur ces trois lieux, un petit peu chez eux aussi, et un petit peu en dehors de ces trois lieux, qui vont intervenir directement en contact de public dans des établissements scolaires, dans des collectivités, dans d'autres associations. Voilà. Donc, on n'a pas toujours l'occasion d'être tous ensemble réunis au même endroit. Donc, c'est très important, vu la diversité des projets et des personnes maintenant, de se réunir au moins une fois par semaine au même endroit. La suite de la semaine est en effet assez éclatée. Donc, on communique beaucoup avec des outils collaboratifs. On essaye quand même de se croiser dans la semaine, mais c'est pas toujours possible tous. On partage notre temps entre du back-office, comme on dit, donc beaucoup de préparation de projet, d'ingénierie de projet. Donc pour une association comme la nôtre, qui reçoit beaucoup de subventions, ça veut dire passer beaucoup de temps sur des dossiers de subventions. Il faut aller chercher l'argent pour financer les projets. Et une fois qu'on a réalisé les projets, il faut rendre des comptes sur la façon dont on a utilisé l'argent, les actions qu'on a menées, est-ce qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés, oui ou non. Donc ça, il faut savoir que c'est quand même une partie importante de notre travail et que ça nous occupe tous. Tous les salariés sont amenés à faire ça dans l'association. L'équipe grossissant, on passe une partie de la semaine aussi à encadrer les plus jeunes de l'équipe qui, pour certains, démarrent dans la vie active. Pour les deux plus jeunes de l'équipe de la Smala, c'est un premier boulot. Donc, ça nécessite aussi de rester proche et de pouvoir encadrer cette intégration dans l'association et le début de la vie professionnelle. On passe tous une partie de notre semaine de fête au contact de nos publics cibles aussi, à animer les actions qu'on a chacun à notre charge. Et donc on va alterner comme ça des temps collectifs, des temps au contact des publics, des temps plus de coulisses avec la préparation de projet, quoi. Ça fait des semaines très denses où on passe d'un sujet à l'autre, d'un interlocuteur à l'autre, et on fait constamment la bascule entre des partenaires institutionnels, financeurs, des collectivités et nos publics avec lesquels on est en contact, justement parce qu'on n'est pas une institution ou une collectivité. Donc nous, on fait vraiment le pont entre les deux.
Ouais, d'accord. Et tout à l'heure, tu parlais des effets de la crise sanitaire sur le nombre d'adhésions que vous avez eues cette année et sur votre activité avec le café notamment. Est-ce que tu as repéré d'autres impacts concrets sur votre activité et au-delà de ça, une tendance qui a pu se dégager de cette crise assez énorme et du confinement qu'elle a généré sur les thématiques qui vous sont chères aujourd'hui?
Il y a des impacts différents en fonction des activités, justement. Pour parler du café associatif en premier lieu, parce que je pense que c'est le premier impacté, en fait, on a dû fermer pendant un certain temps. Et on n'a pas pu continuer à assurer la fonction lien social qu'on assure d'habitude grâce à ce café associatif, alors même que c'était ce qui manquait le plus pendant le confinement. Donc là, en dehors de l'aspect financier qui évidemment compte et important, puisque une fermeture de plusieurs mois, ça peut quand même plomber les finances de l'association. En dehors de cet aspect financier-là, c'est vraiment la mission de lien social à côté de laquelle on passe complètement à un moment crucial. Donc ça a été difficile et on a commencé à réouvrir maintenant et on voit bien que malgré l'envie de reprendre, y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de craintes vis-à-vis de la reprise et que la mobilisation des membres du collectif n'est pas la même et qu'elle va mettre du temps à se remettre en place et à se réenclencher. Sur un projet comme l'alimentation, par exemple, on a un impact presque positif pour pousser un peu le bouchon et grossir le trait, puisque c'est un moment où la distribution de produits locaux a explosé, où les collectivités ont pris conscience de l'importance d'une certaine autonomie alimentaire sur les territoires aussi. Donc ça a plutôt accéléré en fait certains projets. Et en revanche, sur la partie formation, insertion, compte tenu des publics auxquels on s'adresse, là on a vu aussi une demande augmenter et les besoins du territoire augmenter fortement là-dessus. Donc en fait, ça nous, ça nous motive encore plus à agir et ça nous donne encore plus d'idées, quoi. On était pas mal actifs pendant le confinement. On a un atelier de fabrication à la Smala, donc on a produit presque 1000 visières pendant le confinement. Maintenant, c'est interdit les visières, mais à l'époque, c'était préconisé. On a organisé des distributions de courses. Donc voilà, on s'est bougé. Ça a permis de créer des choses pendant le confinement. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de l'action qui a quand même pris du plomb dans l'aile.
Et on est le jeudi 15 octobre. Hier, le président de la République, Emmanuel Macron, annonçait le couvre-feu de 21h à 6h du matin pour la région Île-de-France et 8 métropoles, il me semble, dans toute la France. Depuis la crise et le confinement, on observe des migrations ponctuelles vers des métropoles et des grandes villes vers les espaces ruraux. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous pensez aujourd'hui est-ce que vous voyez ça comme une possibilité de redynamiser les territoires ruraux, cette prise de conscience et ces phénomènes qui sont en l'état problématique, puisqu'il résulte d'une crise qui cause des soucis, mais qui pourrait participer à la redynamisation des territoires ruraux.
Alors, j'ai l'impression que c'est un phénomène qui s'est accéléré et accentué fortement là, du fait de la crise sanitaire, mais qu'on connaissait déjà là où on est avant. Comme on l'a dit, on a une grosse saison touristique. Il y a beaucoup de gens qui passent une petite partie de l'année dans les Landes et dans le pays du Borne où on est. Et on avait déjà commencé à voir avant ça de plus en plus de gens prolonger les vacances en rajoutant un peu de télétravail. Des gens qui habitent à Bordeaux, qui habitent à Toulouse et qui vont pouvoir passer une petite partie de l'année dans une résidence secondaire dans les Landes, dans notre coin, et travailler à distance pendant ce temps-là. Donc c'était quelque chose qu'on connaissait déjà. On l'a vu s'accentuer en effet pendant la crise, et c'est quelque chose qu'on essaye de voir comme une opportunité en effet pour les territoires. Et ce qui nous intéresse particulièrement à la Smala, j'ai l'impression, c'est essayer de rendre cette relation riche pour le territoire. Un tourisme un peu old school ou traditionnel ou consommateur qui va venir puiser dans le territoire sans jamais y contribuer, c'est pas très intéressant en termes de développement du territoire. Si aujourd'hui on regarde, on imagine par exemple un touriste qui arrive dans les Landes, qui est dans un camping hollandais avec un bungalow allemand et qui mange des oranges marocaines au petit-déj et des tomates hollandaises, et ben on se rend compte que finalement le territoire profite pas tellement de ce passage-là, de cette relation-là. Mais il y a plein d'autres choses à imaginer. On peut imaginer plein d'autres moyens d'enrichir cette relation-là avec les gens qui passent pas toute l'année sur le territoire. Et c'est un axe de réflexion et de travail pour nous. On associe beaucoup les associations comme la Smala, donc les tiers-lieux, en fait, à des espaces de coworking. C'est un raccourci et un lien qui est souvent un peu énervant parce qu'il est très réducteur, mais il existe quand même ce lien dans le sens où les tiers-lieux sont en capacité d'accueillir justement ces personnes-là sur le territoire. Accueillir ces personnes-là, ça ne veut pas uniquement dire leur fournir un bureau et une connexion Internet, ça veut dire aussi leur proposer de s'impliquer sur le territoire d'une manière intéressante pour tout le monde. Et je pense qu'à ce titre-là, une asso comme la Smala doit pouvoir proposer autre chose pour enrichir la relation.
On va essayer de dézoomer un petit peu maintenant et de poser des questions un peu plus générales. Est-ce que tu pourrais définir ce qui est pour toi la ruralité aujourd'hui ? Puisque en fait, cette interview s'inscrit dans le cadre du Forum des ruralités engagées. Qu'est-ce que c'est pour toi la ruralité ?
Ouais, c'est dur comme question. C'est la plus dure pour la fin. Je me suis posé la question récemment en plaisantant avec des copains et en imaginant la différence entre aimer la vie à la campagne et aimer la ruralité, justement. Parfois, j'ai l'impression que la ruralité, c'est une façon lointaine de décrire une réalité dans laquelle on ne vit pas. En fait, j'ai l'impression que c'est un concept exogène, en fait, au milieu, qui l'entend décrire. Donc, en soi, ça ne me rend pas tout à fait à l'aise avec le concept. Après, pour apporter un élément de réponse peut-être un peu plus tangible, un peu plus concret, je pense qu'on voit de mieux en mieux que ces zones rurales, ces campagnes, représentent en fait des opportunités de vie hyper intéressantes et hyper concrètes pour plein de gens. On voit que la vie en ville, surtout dans les grosses métropoles, peut-être dans les 8 qui vont s'offrir du couvre-feu, en fait, est de plus en plus contraignante et compliquée. Ça nécessite de plus en plus d'aisance matérielle et financière de pouvoir vivre dans ces grandes villes. Ça nécessite aussi de plus en plus de formation, de diplôme, de réactivité, bref, la capacité de répondre un peu aux injonctions du monde moderne tel qu'il est diffusé et tel qu'il est présenté. Et je pense que la campagne, c'est un espace de réalisation de possibles différents. Et en ce sens-là, je suis très content d'y être, très content d'y travailler.
Ok. Et puisque c'est le forum des ruralités engagées, qu'est-ce que c'est pour toi l'engagement ? Et est-ce que tu estimes que tu es et l'ASMALA est engagé ?
Écoute, on a eu cette discussion cette semaine pendant notre réunion de conseil d'administration. C'est un long sujet qu'on n'a pas évoqué dans tous ces aspects, toutes ces profondeurs. On se pose souvent la question du militantisme. Je la relis plus ou moins à cette question de l'engagement. La réponse qu'on y apporte pour l'instant, c'est le faire. C'est-à-dire qu'on s'inscrit tous en faux par rapport à des modèles qu'on a explorés et des voies qu'on a explorées et qui ne nous ont pas convenu. Et notre parti pris aujourd'hui, c'est d'en construire d'autres et de montrer que ça marche. Donc on a un mode d'action qui est plus dans le construire autre chose que s'attarder sur ce dans lequel on ne veut plus évoluer.
Merci pour tes réponses, Alban, très intéressantes. Est-ce que pour conclure, tu pourrais orienter les auditeurs et auditrices vers des liens ou des supports qui permettent d'en savoir plus sur l'ASMALA ?
Alors, on n'a plus de site internet à l'ASMALA pour l'association générale. En revanche, on a un site internet qui est dédié à la partie campus rural, insertion, formation, donc territoire commun. Ça, il est trouvable sur tous les moteurs de recherche. On a une page Facebook qui est à jour et qui annonce les actualités de l'association, tous les événements à venir. Et on a un petit canal aussi sur Instagram qui est sympa à suivre, qui est un peu moins informatif et un peu plus ludique, disons.
Merci Alban, à bientôt.
Merci Maxime.
Nous espérons que ce témoignage vous a plu, qu'il vous a inspiré, questionné ou qu'il vous a donné envie de vous engager. Pour aller plus loin et mieux connaître la SMALA, nous vous glissons plus d'infos en description de l'épisode. Cet épisode a été réalisé pour le Forum des ruralités engagées par La Traverse. Le micro a été tendu par Maxime Verdun. Nous remercions tous les partenaires du forum sans qui cet événement n'aurait pas pu se tenir, même dans ces conditions particulières. La Fondation La France S'Engage, la Fondation RTE, l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, la Banque des Territoires, la Fondation Massif, la Fondation Crédit Coopératif et le groupe La Poste. Retrouvez toutes ces informations et plus encore sur www.villagevivant.com.